Chapitre 6. Le banquet. En entrant dans la salle du festin, les deux jeunes filles trouvèrent leurs hôtes déjà rassemblés. Le riche Fabius ne donnait pas, ce jour-là, un banquet. Il avait simplement invité quelques amis à venir partager son repas. L'on sait qu'à Rome, l'ordinaire des maisons opulentes était fort recherché et pouvait suffire pour les réceptions de tous les jours. Sans insister sur les détails du luxe de la table et la quantité des mets, nous dirons que tout était fort élégant dans le service et que tous les plats semblaient exquis. Nous nous attacherons seulement aux incidents qui peuvent éclairer notre récit. Quand les deux jeunes filles eurent franchi le seuil de la salle de réception ou de l'exèdre, Fabius, après les avoir saluées, dit à sa fille « Pourquoi, mon enfant, après être descendu si tard, n'avez-vous pas pris le temps de terminer votre toilette? Vous avez oublié de mettre vos bijoux accoutumés. » Fabiola rougit. Elle ne savait que répondre. Elle était honteuse de la faiblesse qui l'avait portée à la colère et regrettait encore d'avoir voulu, par un sentiment puéril, se punir elle-même. Agnès vint à son aide et, rougissant aussi, répondit « C'est ma faute, cousin Fabius. C'est Fabiola est en retard et si elle vous paraît si simplement habillée. Je la retenais par mon babil et je ne doute pas qu'elle ait voulu ne pas écraser la simplicité de ma toilette par la richesse de ses ajustements. « Vous faites comme vous voulez, chère Agnès, reprit le père. Mais parlons sérieusement. Cette grande simplicité convenait lorsque vous n'étiez qu'une enfant. Maintenant que vous avez atteint l'âge où vous pouvez être mariée, vous devriez commencer à mettre un peu plus de recherche dans votre toilette afin de gagner le cœur de quelques jeunes et beaux patriciens. Un beau collier, comme vous en avez tant chez vos parents, ne vous rendrait pas moins charmante. Mais vous ne paraissez pas m'écouter. Est-ce que, par hasard, vous auriez déjà un fiancé en vue ?» Pendant ce discours, qui venait d'un homme du monde animé de très bonnes intentions, Agnès semblait plongée dans une demi-extase. Ses yeux prenaient l'expression que Fabiola appelait « enchantée ». Elle paraissait sous le charme d'une souriante vision, attendant l'aide de l'être invisible qu'elle contemplait, sans cesser pour cela d'écouter Fabius et sans dire un mot qui fût hors du sujet de la conversation. Elle lui répondit, à la fin, « Oh oui, c'est bien vrai, mon fiancé m'a déjà passé au doigt l'anneau nuptial et il m'a enrichi de magnifiques joyaux. » « En vérité, demanda Fabius, que vous a-t-il donc donné ?»« Ce qu'il m'a donné ?» répondit Agnès avec un regard illuminé de tendresse et une voix pleine de douceur. « Il a mis à ma main et à mon cou des pierres précieuses et il a suspendu à mon oreille des anneaux de perles incomparables. »« Bonté du ciel, qui cela peut-il être ? J'espère, Agnès, que le jour où vous me direz votre secret se lèvera bientôt. Puisse votre premier amour être aussi long que votre vie et vous rendre pour toujours heureuse. » Pour toujours, répondit l'enfant, comme elle allait rejoindre Fabiola, afin d'entrer avec elle dans la salle à manger. Si Fabiola avait entendu cette partie du dialogue, elle eût été vivement blessée à la pensée qu'Agnès avait caché l'acte le plus important de sa vie à celle qui se considérait comme sa plus tendre amie. Mais, tandis qu'Agnès défendait sa cousine auprès de son père, Fabiola était allée recevoir ses hôtes. Le premier qui nous apparaît est un gros sophiste romain, au cou épais et court. Il croit tout savoir. On le nomme Calpurnius. Voici Proculus, un simple amateur de bonne chère, qui fréquente souvent la table somptueuse de Fabius. Il reste encore deux personnages qui méritent une étude particulière. Le premier d'entre eux est évidemment un favori de Fabiola et d'Agnès. C'est un tribun, un officier d'un haut grade dans la garde impériale. Il n'a pas encore atteint sa 30e année et pourtant sa valeur l'a déjà distingué et lui a valu les plus hautes faveurs des empereurs Dioclétien en Orient et Maximilien Hercule à Rome. Ses manières et sa toilette n'ont rien d'affecté, quoiqu'il soit fort bien de sa personne. Il cause agréablement, sans avoir besoin de recourir aux propos frivoles qui occupent les conversations du monde. C'est un brave cœur, plein de généreuses pensées et rempli d'honneur, sans qu'il semble tirer de ses belles qualités la moindre vanité. Il y avait un contraste complet entre ce brave militaire et le dernier hôte de Fabius, que Fabiola venait de désigner comme une des nouvelles étoiles de la société romaine. Fulvius, le jeune patricien, avait quelque chose d'efféminé dans son regard et dans sa toilette, combiné avec l'élégance la plus raffinée. À chacun de ses doigts brillaient des diamants. Il portait beaucoup de bijoux. Ses paroles étaient affectées et un léger accent étranger s'y trahissait. La courtoisie de ses manières semblait exagérée. Il était complaisant et doucereux, et en peu de temps après son arrivée à Rome, il avait été admis dans la plus haute société. Cette faveur lui fut accordée parce qu'il était bien vu à la cour et que ses manières fascinatrices exerçaient leur prestige sur la multitude. Il arriva à Rome simplement accompagné d'un seul homme de confiance, plus âgé que lui et qui paraissait lui être profondément attaché. On ne pouvait savoir s'il était esclave, homme libre ou bien ami de Fulvius. Quand ils se trouvaient ensemble, ils parlaient toujours une langue étrangère et les traits basanés, l'expression altière, l'œil sombre de l'intendant inspirait un vif sentiment de crainte aux gens placés sous ses ordres. Fulvius avait pris un appartement dans ce qu'on appelait une île ou une maison isolée de toutes parts des autres habitations. Tout était luxueux dans sa demeure et il n'avait pas oublié que le luxe des esclaves était une des recherches les mieux portées à Rome. L'abondance, ou plutôt la profusion, régnait chez ce jeune étranger, et dans la société corrompue de Rome, on avait bientôt oublié l'incertitude qui régnait sur son origine, sur son apparition soudaine, pour ne songer qu'à ses richesses, qui semblaient si grandes, et pour écouter nonchalamment ses conversations dissolues. Un fin observateur aurait cependant remarqué l'inquiétude qui perçait dans son regard et qui se manifestait à chaque son étranger qui frappait son oreille. Puis, quand il se croyait seul, un pli profond venait à froncer son sourcil, et sa lèvre mince se relevait avec une expression de haine singulière qui donnait à penser que sous cet extérieur doucereux se cachait une âme remplie de fiel. Les hôtes furent bientôt introduits dans la salle du repas. Les dames restaient assises, tandis que les hommes étaient demi-étendus sur des lits de repos. Fabiola et Agnès se placèrent à un des côtés de la table. Les deux jeunes gens que nous avons décrits au côté opposé et le maître, avec les deux convives plus âgés, occupaient le centre, si ces termes peuvent être employés pour désigner la disposition des convives en trois groupes autour d'une table ronde, car un côté restait réservé pour la sigma, ou couche demi-circulaire, placée là pour faciliter le service. Nous remarquerons en passant un luxe de table inconnu au temps d'Horace et qui était alors en usage journalier. Quand le premier appétit fut calmé et que les palais délicats commencèrent à se trouver satisfaits, la conversation devint générale. « Quelles sont les nouvelles des bains ? » demanda Calpurnius, « car je n'ai pas le temps de m'enquérir moi-même de semblables bagatelles. » Elles sont très intéressantes, cependant, répondit Proculus. On dit que des ordres ont été reçus du divin Dioclétien pour terminer ces termes dans 3 ans. Impossible, s'écria Fabius. L'autre jour, en me rendant au jardin de Salluste, je jetai un coup d'œil sur les travaux et je les trouvai presque au même point que l'année dernière. Ce sont des ouvrages très fatigants à faire. Il y a des marbres à sculpter, des colonnes à tailler. « C'est vrai, interrompit Fulvius, mais je sais que des ordres ont été donnés de toutes parts pour amener les condamnés aux travaux des mines en Espagne, en Sardaigne et même dans la Grande Grèce et qu'on n'a guère souci d'épargner afin de les faire travailler au terme. Quelques centaines de chrétiens auront bientôt tout terminé. » « Et pourquoi des chrétiens plutôt que d'autres criminels ?» demanda avec curiosité Fabiola. « Pourquoi ?» « Vraiment ?» dit Fulvius avec un sourire doucereux. « Je puis à peine en donner la raison. Mais les faits sont là. Sur 50 mineurs condamnés, je m'engagerai à distinguer un chrétien. » « En vérité, s'écrièrent les autres, et comment cela ?»« Les condamnés ordinaires, répondit-il, n'aiment pas leur ouvrage. On est obligé d'employer le fouet pour les forcer à continuer, et quand ils n'ont pas de surveillance autour d'eux, ils ne font rien. » Ils sont en général hargneux, abrutis et querelleurs. Lorsque les chrétiens sont condamnés aux travaux publics, ils semblent au contraire heureux et se montrent toujours doux et obéissants. J'ai vu de jeunes patriciens de l'Asie dont les mains délicates n'avaient jamais tenu la pioche, dont les faibles épaules ne s'étaient jamais courbées sous le fardeau, travailler avec courage sans paraître moins heureux que chez leurs parents. En outre, les surveillants les châtient avec la verge ou le bâton, et en cela, ils accomplissent les ordres des divins empereurs qui veulent rendre l'état des chrétiens aussi intolérable que possible. Eh bien, sous la verge même, ils ne profèrent aucune plainte. « Je ne puis pas admirer cette sorte de justice, » répliqua Fabiola. « Mais quelle étrange race que celle des chrétiens! Quel est le motif de leur indifférence pour les maux de la vie et de leur insensibilité pour la souffrance ?»«
Calpurnius nous l'expliquera sans doute, » reprit Proculus avec un regard ironique. « J'ai entendu dire qu'il était capable de raisonner pendant une heure sur n'importe quel sujet, vint-on à parler des grandes Alpes ou bien d'une fourmilière. »
Calpurnius, ainsi complimenté, pensa en lui-même qu'il méritait ses hauts éloges et commença solennellement en ces termes. « Les chrétiens forment une secte étrange dont le fondateur vivait en Chaldée il y a plusieurs siècles. Ses doctrines furent apportées à Rome sous le règne de Vespasien par deux frères appelés Pierre et Paul. D'autres auteurs prétendent que ces deux hommes et les deux frères jumeaux que les Juifs nomment Moïse et Aaron répondent au même personnage. Le premier vendit son droit d'aînesse à son frère pour un chevreau, afin d'avoir sa peau pour en faire des gants. Mais je n'admets pas cette assertion, car on voit dans les livres religieux des Juifs que le second de ses deux frères, voyant les victimes de son aîné donner de meilleurs augures que les siennes, le tua comme Romulus tua Rémus, mais en employant la mâchoire d'un âne, pour lequel crime il fut pendu sur un gibet haut de 50 coudées, par les ordres de Mardochée, roi de Macédoine, qui fut poussé à ses représailles par Judith, sœur des deux frères. Pierre et Paul vinrent donc à Rome. On découvrit que le premier était un esclave de Ponce Pilate qui s'était enfui, et il fut crucifié sur le janicule, comme son maître l'ordonna. Les spectateurs de sa religion firent de la croix leur symbole et l'adorèrent. Ils considèrent les mauvais traitements et la mort ignominieuse même comme un grand bonheur qui les rend semblables à leur maître, et ils espèrent aller les rejoindre dans un lieu placé au milieu des nuages. Cette lumineuse explication des origines du christianisme fut écoutée avec admiration par tous les auditeurs, à l'exception de deux d'entre eux. Le jeune officier tourna vers Agnès un regard interrogatif qui semblait demander s'il devait répondre à ces assertions stupides ou se contenter d'en rire. Mais la jeune fille posa son doigt délicat sur ses lèvres comme pour implorer le silence et sourit doucement.
Le résumé de tout ceci, observa Proculus, c'est que les termes vont être terminés et que nous aurons des divertissements splendides. Ne dit-on pas, Fulvius, que le divin Dioclétien viendra lui-même assister à la dédicace ?
C'est tout à fait certain et nous aurons des fêtes glorieuses et des jeux magnifiques. Mais nous n'attendrons pas même si longtemps. Déjà, pour d'autres raisons, on a envoyé des ordres en Numidie pour qu'un grand nombre de lions et de léopards arrivent avant l'hiver. Puis, se tournant vivement du côté de son jeune voisin, il lui dit en le regardant malignement.
« Un brave soldat comme vous, Sébastien, doit se plaire au noble jeu de l'amphithéâtre et se réjouir surtout quand les combattants sont les ennemis des augustes empereurs et de la République. »
Le jeune officier se leva sur sa couche, regarda son interrogateur avec une froide et majestueuse figure et répondit simplement « Fulvius, je ne mériterai pas le titre de brave que vous me donnez si je contemplais avec plaisir, de sang-froid, la lutte, si l'on peut lui donner ce nom, qui se livre entre une bête féroce et une femme ou un enfant sans défense, car ce sont là les spectacles que vous appelez de nobles combats. Je tire mon épée avec joie contre les ennemis du prince ou de l'État, mais je voudrais la tirer contre le lion ou le léopard qui se rue, même par les ordres de l'empereur, sur l'innocence sans appui. » Fulvius tressaillit, mais Sébastien, plaçant sa large main sur le bras grêle de son interlocuteur, continua « Écoutez-moi jusqu'au bout. Je ne suis pas le premier Romain ni le plus noble patricien qui ait pensé ainsi. Souvenez-vous des paroles de Cicéron. Les jeux sont magnifiques sans doute, mais quelle délice un esprit élevé peut-il trouver à voir un homme faible déchiré par une bête furieuse ou un noble animal percé par un javelot. Je suis très fier que mon humble avis se rencontre avec celui du premier orateur de Rome. »
« Alors, nous ne vous verrons jamais à l'amphithéâtre, Sébastien. demanda Fulvius avec un ton doucereux mais railleur. « Si vous m'y voyez, répliqua le soldat, ce sera du côté de la victime sans défense et non du côté des brutes qui la déchirent. » « Sébastien a raison, s'écria Fabiola en frappant dans ses mains. Et je ferme la discussion par mes applaudissements. J'ai toujours entendu ce noble tribun parler avec un esprit élevé qu'anime un grand cœur. » Fulvius mordit les lèvres en silence et tous les hôtes se levèrent pour se séparer.